Il me reste à présenter frère Xavier Lepinet. Comme cela se voit, vous êtes dominicain. Oui. Et alors je précise, du couvent de Strasbourg, et vous êtes maître des novices.
Du coup, ça porte naturellement vers moi.
Alors, on apprend sur le site des Dominicains de France que vous êtes aussi le sacristain de votre couvent. Non. Peut-être plus maintenant. Hein. Ah, ben voilà, c'est pas ça le problème d'Internet. Hein. Ouais. On n'est pas, c'est pas toujours mis à jour. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que votre thèse de doctorat s'est passée en 2005 à Strasbourg. Et elle portait sur le De Examinatione Doctrinarum de Jean Gerson, donc sur sur l'examen de la doctrine de Jean, des doctrines de Gerson et la réception universitaire des auteurs mystiques à la fin du Moyen Âge. Vous avez animé, je ne sais pas si vous le ferez encore cette année, avec des frères du couvent de Lille, des retraites dans la ville. Mm-hmm. Sur Internet, donc, un accompagnement du carême. Et puis, vous avez écrit en 2005, à ce sujet, un article qui est paru dans la revue Lumière et Vie. Un accompagnement spirituel sur Internet est-il possible? J'ajoute que vous connaissez la Belgique, puisque vous avez fait vos études de philosophie à l'UCL. Ouais. Et vous avez étudié tout particulièrement Pascal, le divertissement chez Pascal. Qu'est-ce que Pascal aurait dit sur Internet? Ça fait partie du divertissement, souvent, souvent. Mais voilà, nous faisons le pari que votre intervention va beaucoup nous aider. Merci.
Bonjour à tous, excusez-moi de vous rejoindre seulement en deuxième, voire troisième partie de votre session. D'emblée, sur mon sujet, donc vie spirituelle et Internet, je tiens à souligner que j'ai essayé d'éviter deux écueils. Donc le premier est de vouloir a priori dire du bien, ou a priori dire du mal d'Internet. J'ai essayé d'éviter tout manichéisme. Soit le cyberoptimisme foncier, ça ne peut être que bien, vive la modernité en général, ou le cyberpessimisme foncier a priori. Donc, je vais donc, malgré mon tempérament, mon histoire, essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et le second écueil que je vais essayer d'éviter, c'est de parler de généralité, de dire Internet c'est ça. Donc je vais même être assez précis, je vais prendre Internet et la vie spirituelle avec deux cas très concrets. Hein. Le premier qui est effectivement l'accompagnement spirituel sur Internet. Donc c'est une toute petite chose, mais en même temps très, très instructive. Et la deuxième partie, ça sera, je suis père maître des novices, donc je vois des gens qui arrivent, qui ont Internet, pas encore dans la peau, mais presque, et je dois les initier à une vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que je donne comme consigne? Et vous allez voir que les réponses sont assez diverses en fonction des paramètres, en fait, très concrètement. Et alors, vous verrez. Puis en troisième partie, je ferai une réflexion plus générale, plus en amont. À chaque partie, je terminerai par un évangile, ou un texte de la parole de Dieu qui peut éclairer la question. Donc, par exemple... Enfin non, je vais faire tous. L'accompagnement spirituel sur Internet est-il possible? Je terminerai par Luc 10, le bon samaritain, quelqu'un qui s'approche, qui va voir l'homme malade, et Acte 8, donc Philippe, qui accompagne l'eunuque et qui disparaît à la fin. Sur la place d'Internet dans un noviciat religieux, alors après on pourra étendre, hein, la vie religieuse ne concerne pas que les religieux, hein, vous comprenez que... Et la vie spirituelle, encore moins. Je prendrai Matthieu 6, 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et la troisième partie, sur plus en amont de réflexion, sera sur le discernement et mon texte phare sera Matthieu 7,15 « Méfiez-vous des faux prophètes ». Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut déprécier la prophétie. Il faut tenir les deux. Donc vous voyez, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. L'accompagnement spirituel sur Internet. Donc je pars de l'expérience de Retraite dans la ville. Donc c'est le site retraite-dans-la-ville-attaché.org qui est organisé par le couvent de Lille depuis 2003. Pour donner quelques chiffres, l'an dernier ça regroupait 40 000 inscrits avec diverses propositions, la principale étant un mail par jour et une conférence dimanche avec tous les formats MP3, vidéo, etc. Avec les prières téléchargeables en MP3 également, intention de prière qu'on peut confier à je ne sais combien de couvents moniales et accompagnement. Alors j'étais là quand ça s'est fait, on m'a dit tu t'occupes de ça. Donc nous avons trouvé une trentaine d'accompagnateurs, frères, sœurs, laïcs. Nous avions chacun, donc je vais faire la description, une adresse assez neutre du genre frèreXavier@retraitedanslaville.org, sans la photo. Les gens s'inscrivaient et étaient directement reliés à l'accompagnateur qu'ils n'avaient pas choisi. Donc ils ne pouvaient pas cocher frère ou sœur, ou laïque, ou jeune ou vieux. Et donc beaucoup s'inscrivaient en pensant que c'était forcément un jeune frère beau et intelligent et compréhensif de Lille. Et parfois il y avait des déceptions, en disant il est moins jeune que ce qu'on m'avait dit ou ce que je croyais. Cinquantaine d'accompagnateurs à la fin pour environ 10 accompagnés par accompagnateur. Donc ça fait pendant 40 jours 10 personnes qui envoient 1, 2, 3 mails par semaine. 43% abandonnaient dès les 2 ou 3e mail. Donc ça réduisait tout de suite à 5 relations sérieuses pendant 40 jours. Cet accompagnement, pour continuer la description, n'était ni plus ni moins qu'une correspondance, comme ça existait depuis toujours. Thérèse de Lisieux et l'abbé Maurice Bellière ont eu une correspondance spirituelle sans jamais s'être rencontrés. Donc ils ont eu une correspondance par médias interposés. Qu'est-ce que cela nous a appris? D'abord, c'est qu'il y a un public qui existe, qui échappe à tout autre accompagnement. J'en cite 3, c'est assez étonnant, vous allez voir. C'est des cas que j'ai eus. Une dame qui était tellement forte par raison de sa maladie qu'elle n'était pas sortie de son appartement depuis 15 ans. Donc la fenêtre sur le monde était pour elle Internet. Voilà. Donc l'accompagnement, à moins qu'un prêtre vienne la visiter ou quelqu'un, c'était Internet pour elle son univers. Deuxième cas, une petite sœur libanaise qui était dans un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel, et qui m'écrivait en disant « Mon premier prêtre se trouve à 50 km de mon endroit ». Non, elle n'avait pas de pasteur proche, mais elle avait une connexion Internet. Donc du coup, on répondait à les troisièmes publics potentiels, aussi un cas concret, un séminariste qui avait bien un accompagnateur, mais qui disait « J'ose pas lui poser des questions, alors je passe par vous ». Donc vous voyez, c'est ce genre de public très varié. Pour vous donner des chiffres aussi, c'était à 67% féminin. Ça, je crois qu'on peut corroborer avec les autres accompagnements. 28% avaient entre 40 et 50 ans, 24% entre 50 et 60. Vous voyez, le créneau 40-60 ans était presque la moitié. Et une figure que les accompagnateurs que j'ai sondés m'ont dit, une figure qui revient, c'est assez intéressant, c'est la femme au foyer avec enfant en âge scolaire. Elle a 45 ans, elle est chez elle, elle n'a personne autour d'elle, et elle est sur Internet, et elle se pose des questions sur sa vie spirituelle. Donc voilà un peu le profil type. Ce que je tiens à souligner de cette expérience, la première, c'est qu'une relation authentique et réelle est possible. Mais elle prête le flanc à la fantasmagorie ou la fantasmisation. Dans les deux sens, je vous ai parlé du jeune frère, mais moi j'avais accompagné une dame qui était à Tahiti et qui me racontait ses marches dans la forêt sous le soleil. Or, elle avait une vie pas possible. Elle me raconte. Elle me dit, est-ce que je peux me confesser avec ça? Je lui dis, non, mais oui, vous pouvez y aller. Confiance, le prêtre va savoir vous accueillir. Et il m'avait répondu la semaine suivante, tout s'est très bien passé, je marchais avec une amie dans la forêt, etc. Je suis allé voir le prêtre, merci beaucoup. Et quand j'y repensais au moment de faire l'article, la ma tahitienne, je la voyais, je l'avais dans ma tête. Donc, c'est-à-dire que mon imagination avait travaillé. Donc, vous voyez, la part de fantasme n'est pas seulement d'un côté, elle est des deux côtés. La confession par Internet est-elle possible? Donc, on l'a souvent demandé. Moi, ce que je peux dire, c'est que, de fait, la retraite dans la ville, le service le plus juste qu'elle a pu rendre, c'est de dire aux personnes, ceci, vous pouvez le confesser, et voici comment se passe une confession. Donc une sorte d'antichambre pour une rencontre réelle. Et là, je trouve que le média et la réponse qui était donnée étaient accordées. Cela ne dépassait pas la capacité d'Internet. Et même, à la fin du carême, la consigne était que cela ne continue pas. Donc vous voyez, c'était cadré dans 40 jours. Parce que de fait, un accompagnement authentique n'est pas possible. Ce n'est que limité. Ma conclusion, c'est sur l'accompagnement sur Internet est-il possible? Oui, dans la mesure où l'accompagnement est un terme très large. Accompagner, ça veut dire quoi? La palette est très très grande. On peut aider les gens sur Internet par une phrase. Une direction et un discernement, en revanche, sont impossibles. Je ne pense pas qu'on peut discerner ou faire une direction spirituelle, qui est le sommet de l'accompagnement, uniquement sur Internet. La direction, c'est très grave. C'est votre accompagné qui dit, mon père, tout ce que vous me direz, je le ferai. Donc ça demande une confiance de la part de l'accompagné, et c'est lui seul qui peut le dire. C'est jamais l'accompagnateur qui va dire, je vais vous diriger. Il faut que ce soit la personne qui fasse. Donc, une direction et un discernement sont impossibles. Un accompagnement, oui, dans un cadre limité. Ce que je trouve positif dans cette expérience, c'est que cela met l'accent sur la capacité de l'accompagné à choisir son accompagnateur. S'il n'est pas content, il s'en va. Il ne va pas vous demander « est-ce que je peux partir ?» Il ne va pas répondre, c'est tout. Et ça me semble très juste. Que François de Sales dit « Choisis un conducteur dans ta vie ou un accompagnateur, choisis-le non pas entre 1000, mais entre 10 000. Donc, si vous ne lui plaisez pas, eh bien, il va partir. L'entrée libre est plus forte chez Internet que quand on va voir un prêtre, et après on se dit, c'est difficile de couper, quand il y a une relation qui s'est un petit peu établie. Dans l'autre sens, cela, je trouve, est positif aussi, cela empêche pour l'accompagnateur de se sentir le maître du monde. Quand on est sur Internet, oui, il y a une limite, on ne voit pas les personnes, et on tente quelque chose d'aider, mais on est modeste, forcément. Alors qu'il peut y avoir, mine de rien, un peu un sentiment de surpuissance quand on accompagne dans le cadre d'un parloir. Une image qui fonctionne très bien, c'est la comparaison avec les médecins. Et la comparaison pasteur et médecin. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs sites de médecine en ligne, doctissimo.fr, où on peut faire des diagnostics, etc. Actuellement, 70% des patients, quand ils vont chez un médecin, ont consulté Internet avant. Donc, ils arrivent avec déjà une petite connaissance. Mais le corps médical, bien sûr, s'interdit à poser des diagnostics sur uniquement par Internet, et même avec une webcam. La webcam n'est pas une solution à tout. Ce que l'on constatait, c'est que les accompagnés de retraite dans la ville, pratiquement aucun n'a demandé une webcam. Donc ça les arrangeait plutôt, de ne pas avoir de visage. Et ça, de fait, ça limite les... ça limite le discernement. Attendez, j'ai une phrase d'Aristote qui tombe à pic. Il parlait d'Internet, justement. Ça se trouve dans la métaphysique. La vue est, de tous nos sens, celui qui nous fait acquérir le plus de connaissances et nous découvre. découvre une foule de différences. Donc la vue comme étant le média principal. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, qu'est-ce qui marche? C'est autant la parole que les larmes, le silence lourd, le petit sourire qui va bien, dans les deux sens. Alors c'est sûr que Internet, uniquement un écran, et même avec webcam, il n'y a pas tout ça. Voilà, toute l'épaisseur, vous voyez, de la relation humaine, de l'incarnation. Donc, conclusion, de même qu'un médecin ne peut pas poser un diagnostic par Internet, de même, un discernement ne peut pas être opéré par Internet. Luc 10 et Acte 8, donc le bon samaritain, quel est celui qui s'est rendu le prochain? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Vous savez, celui, le samaritain qui s'approche de l'homme blessé. Le terme s'approcher dans Luc, on va le retrouver trois fois, donc dans Luc 10, dans Luc 24, les disciples d'Emmaüs, et il s'approcha d'eux, et dans Acte 8, et Philippe s'approcha du char où l'eunuque lisait la Bible. Et dans Acte 8 est le calque de Luc 24, c'est la copie d'Emmaüs, mais pour Philippe. Alors, s'approcher, c'est ce que j'ai pu vivre spirituellement dans cette dimension d'accompagnateur sur Internet, c'est qu'il faut tâcher de rejoindre au plus proche les questions que la personne se pose. En un mot, cela ne fonctionnait que si je reprenais les termes que la personne avait utilisés. Donc je commençais toujours par dire, si j'ai bien compris, voici ce que vous me dites. Et la personne attendait d'abord ça, que je l'ai rejoint, et donc que je n'ai pas trop glissé sur une réponse, mais d'abord que je l'ai touché, du point de vue intellectuel. Donc je m'approche d'un côté, mais comme Philippe, à la fin, tac, je m'éclipse. Je l'ai conduit au sacrement, comme ma petite haïtienne que j'ai conduite fièrement à la confession, mais à la fin des 40 jours, je m'éclipse. Et Philippe fut emporté, et l'eunuque continua tout joyeux, etc. Donc, à la fois pour montrer l'accompagnement réel et avec une proximité, il y a une relation de charité quand même qui s'établit, et en même temps qui est limitée, donc il faut disparaître un moment. Deuxième partie, la vie religieuse, donc au sens large, donc j'accueille des novices. Alors comment je fais avec des novices? C'est un an en dehors de tout, les coupés du monde, enfin, c'est comme ça que doit se passer un noviciat, relation avec la famille limitée, visite de la famille au bout de 8 mois, le courrier autorisé, téléphone une fois tous les 15 jours, et Internet, comment on fait? Alors, je navigue à vue, je vous donne trois réponses de trois paramètres différents. Tous les trois sont dominicains, donc... le permettre, non, je ne vais pas donner les noms après ça. Celui de Strasbourg, c'est moi. Les autres, je ne donnerai pas leur nom. Moi, je leur dis connexion à Internet une fois par semaine pour consulter les emails. Et le week-end, donc soit samedi, soit dimanche. Pour les renseignements pratiques, mettons les horaires de la piscine ou quelque chose comme ça. Soit vous me demandez, soit ça n'a pas de conséquence, vous y allez directement pour chercher le plan de la ville de Strasbourg ou comment rejoindre l'horaire d'un musée, par exemple. Pour les frères étrangers, donc j'ai des frères scandinaves ou du monde arabe, ils ont l'autorisation, en plus, d'une heure de connexion le week-end pour un journal de leur pays. Alors vous imaginez bien que quand un pays a un trouble politico-religieux, il y a quelques années, ça se passait et on avait les relations par journal, et là on les a en direct. Et on a la connexion avec tout son réseau social, on peut l'avoir en direct. Donc voilà ma solution à moi, une fois par semaine, le week-end. Un autre paramètre, email quand vous voulez. Pour lui, c'est comme du courrier. Un autre paramètre, ordinateur dans la cellule. avec un site, vous pouvez aller le voir, c'est noviciat.de, où on sait tout du noviciat allemand, avec les photos, etc. Donc une hyper communication, et avec l'idée, lui, de qu'ils apprennent, dès leur noviciat, à s'occuper de l'outil Internet. Alors, pour prendre une image, un de mes frères me disait, devant la mer, il ne faut pas construire un mur, il faut leur apprendre à nager. Mais on ne peut pas construire un mur en disant qu'il y a la mer derrière, il ne faut pas y aller. Il faut leur donner des moyens. Je disais que nous naviguons à vue, et comme j'expliquais ces consignes à une religieuse, donc voilà, une fois par semaine, pas plus, et que juste après je lui disais que toutes ou presque les demandes d'entrer dans l'ordre m'arrivaient par Internet, et je disais, mais à la limite, si quelqu'un m'envoyait une lettre papier en disant « je demande à rentrer dans l'ordre dominicain », je trouverais ça bizarre. C'est quelqu'un qui est déconnecté. Et la sœur me dit, c'est bizarre, d'un côté vous vous méfiez d'Internet, et puis de l'autre, vous vous méfiez quand quelqu'un vous envoie une lettre par papier. Ah, je dis, merci ma sœur, ça c'est bien vu, c'est-à-dire que je fonctionnais sur deux registres. Le côté un peu à l'ancienne, en disant, méfions-nous de tout ce qui est modernité. Et de l'autre, une lettre papier, pour moi, semble complètement archaïque. Et actuellement, 100% des frères ou regardants, donc ceux qui regardent l'ordre, connaissent notre site par cœur. Et nous le disent, en disant, j'ai consulté votre site, je le connais par cœur. La page « Comment devenir dominicain » est consultée environ 450 fois par mois, par des personnes différentes. 450 x 12, non, je n'ai pas 4500 novices à la fin de l'année. Mais ça dit quand même l'importance. Et évidemment, moi je suis rentré dans l'ordre avant Internet, j'ai consulté des livres, je suis allé voir des gens. Mais je voudrais rentrer dans un ordre maintenant, mon premier réflexe, et je trouve ça naturel, ce serait d'aller voir sur Internet. Et après je vais contacter par Internet. Je voudrais faire trois réflexions à ce sujet. Quatre même. La première, c'est que Internet renverse le rapport traditionnel. Le permettre va vous apprendre quelque chose et vous n'avez qu'à écouter. Parce que souvent, ce sont eux qui connaissent le mieux, enfin eux, mes novices connaissent beaucoup mieux le monde d'Internet que moi. Donc j'en suis, moi, à leur demander des conseils. Comment vous faites pour ça? Donc vous voyez, le rapport, une autorité, une tradition qui se transmet, et renverser actuellement ce monde qui a une place colossale dans notre vie est détenu par des plus jeunes que nous, et ça peut être un peu déstabilisant quand on est en situation de formateur. Qu'est-ce que je cherche par ma technique de un email une fois par semaine? Dans la première semaine, la retraite de prise d'habit, juste avant de prendre l'habit dominicain, je leur fais un commentaire de Matthieu 4. Et là, Pierre et André, laissant leur filet et leur père, ils le suivirent. Je leur dis, vous savez comment se traduit filet en anglais? Le net. Donc là, laissant le net, ils le suivirent. Donc, ça fait mouche, généralement, parce qu'ils ont quand même un petit peu cette appréhension. Je dis, voilà, vous allez quitter votre famille, vos réseaux, et vos réseaux, ben, ça va être dans le net, en particulier. Donc, je vais vous demander, mais oui, voilà, connexion une fois par semaine. Ah bon, d'accord. Le noviciat est une coupure, il y a quelque chose de symbolique, rituel, qui est de l'ordre du rapt, enfin, je ne sais pas comment dire, qui est de... C'est le passage à la vie religieuse, qui est... On quitte le monde. Et à un moment... il faut pouvoir dire j'ai quitté le monde. Le net en est un symbole. Bon, il s'avère que c'est dans l'évangile. Je ne dis pas que Matthieu avait prévu Internet en disant et laissant leur filet le suivre, mais ça m'arrange bien. Ceci dit, un de mes frères novices vient me voir 15 jours, 3 semaines après l'entrée novicien en me disant bah, écoute, j'ai 30 mails par semaine tous les dimanches. Comment je fais pour répondre? Ah, j'ai dit, ah oui, ça c'est sûr. Alors maintenant, j'ai un peu affiné. C'est dans la lettre, avant de rentrer dans l'ordre, je dis, dites à vos amis que les connexions seront limitées. Il ne va pas passer son dimanche à répondre à ses 30 amis en disant comment ça se passe. Donc le but est de couper pour trouver une distance intérieure juste, puisque la distance extérieure n'existe plus. Avant, quand je rentrais dans un monastère, le monde était resté à la porte. Maintenant, il arrive tous les dimanches sur un écran, tout mon réseau social. Donc je les invite à trouver une distance autre avec leurs amis, avec leur famille, et je m'appuie aussi sur Simone Veil, qui dit que aimer purement, c'est consentir à la distance, c'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. Donc aimer purement, c'est consentir à la distance, c'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. Donc je les invite à trouver un autre type de relation à travers Internet pour leurs amis, et sur les 30, il y en a 25 qui vont abandonner, mais 5 qui vont accepter qu'il y ait une distance plus grande dans les relations. Deuxième souci, c'est le respect de la clôture. Intérieur et extérieur ne sont plus aussi nettement marqués. Il ne s'agit plus de dire tu rentres dans une clôture, puisque maintenant tout est accessible par un ordinateur qui est dans la clôture. Mon système, c'est de dire qu'il y a l'espace de la cellule, donc la chambre, qui est l'intériorité. Et je leur dis là, pendant un an, vous n'aurez pas d'ordinateur dans votre chambre. À partir des études, vous aurez un ordinateur dans votre chambre si vous le voulez. Tous ne reviennent pas. Et il y a certains étudiants qui disent « je préfère ne pas avoir d'ordinateur ». L'idée, c'est que dans leur vie, il y ait un espace qui symbolise une intériorité, qui est donc une clôture respectée. Et après, ils la mettront où ils veulent. Après, ça peut être une clôture temporelle. Ça peut être « je décide ». Personnellement, qu'après 10 heures, je ne consulte plus Internet. Mais en tout cas, que quelque chose soit limité. Et je crois que c'est la solution que, Alban, que vous avez adoptée, de donner une délimitation horaire, et non pas géographique, ou dans le temps.
Dans certaines maisons.
Dans certaines maisons. Donc, troisième chose. C'est le rapport à l'autorité. Ça, c'est un peu plus subtil et j'en suis à percevoir ça seulement. C'est que la pratique massive d'Internet, avec ce que cela représente comme énorme lieu de savoir et d'information, engendre un regard critique sur tout ce qui est proposé. C'est-à-dire, maintenant, un jeune, quand on lui propose quelque chose, il dit « je vais aller vérifier » ou « je peux aller voir ailleurs si c'est bien ça ». Donc il y a un réflexe beaucoup plus critique et moins réceptif par rapport à ce qu'on peut donner. De même, la distance avec les supérieurs non directs est moins grande. Un de mes frères parle d'un court-circuit des médiations ordinaires. Dans un couvent dominicain, il y a le frère, le prieur conventuel, plus loin il y a le prieur provincial, et puis après il y a le maître général. Eh bien, Internet a rapproché le prieur provincial de chaque frère, ce qui fait que le prieur conventuel est squeezé. Donc la médiation ordinaire s'en va. Donc on a un rapport beaucoup plus direct avec les supérieurs lointains. Donc la médiation immédiate est plus facilement soupçonnée ou dépassée. De même, un article intitulé « Les cyberchondriaques », ce sont donc tous les malades qui consultent Internet avant de rentrer chez le médecin. Un médecin écrit « Il y a 20 ans, nous étions dans un rapport paternaliste. Le médecin avait l'autorité sur le patient, car il savait. Désormais, la relation reste de confiance, mais elle n'est plus aveugle, puisque le patient peut croiser ses sources. » Donc maintenant, le médecin doit faire l'effort d'aller voir sur Internet pour savoir ce qu'il y a derrière, dans l'esprit du cyberchondriaque, celui qui se croit malade, et qui ne lâchera pas tant que le médecin n'aura pas corroboré ce qu'il a vu sur Internet. Vous voyez. En conclusion de cette deuxième partie sur la vie religieuse, ce que je cherche à inciter auprès de mes frères novices, c'est la notion de discernement. Donc de remplacer les contraintes extérieures par eux une exigence intérieure qu'ils choisissent, savoir dire je prends Internet parce que j'en ai besoin. Ça, je pense que vous l'avez largement vu. Mais de même que la télévision, moi je me suis donné comme règle de ne regarder la télévision qu'après avoir regardé le programme, et pas pour dire j'ai rien à faire ou je vais passer une soirée. Donc distinguer le manque affectif du besoin réel. Personnellement, je n'ai pas de DVD dans ma chambre, c'est un choix, parce que mon père-maître, il y a 17 ans, donc avant que les DVD existent, je pense, nous avait dit, dites-vous bien que le jour où vous avez une télévision dans votre chambre, il y a un problème. Bon. Et pour moi, cette phrase est salutaire, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique comme plaisir, un petit peu, voilà, je me regarde un film seul, alors que j'ai des frères partout et qu'il y a une salle commune de télévision. Donc je m'interdis, titre d'hygiène personnelle, de regarder un film tout seul. Je trouve ça glauque même, quelque part. Un film, soit ça se regarde avec d'autres frères, soit ça se regarde dans la salle commune, avec un frère qui peut rentrer, je lui dis ce que je regarde. Donc concrètement, je propose aux frères novices une réflexion sur le sujet lors d'une soirée. Je vais leur donner des textes. Je crois que je vais leur donner le texte sur la fin de la solitude, que je trouve assez bon. Un de mes dadas aussi dans mes instructions, c'est de pointer le danger de double vie dans la vie religieuse, de paraître quelqu'un de bien et puis d'avoir une double vie à côté. Et Internet peut facilement y prêter. En conclusion, Matthieu 6, pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc je dis, il faut que dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, il faut qu'il y ait un lieu où il n'y ait que Dieu seul, où je puisse fermer la porte. Donc sa vie spirituelle ne s'expose pas, par définition. Une vie spirituelle ne s'expose pas à l'extérieur. J'avoue avoir été un peu déstabilisé par un accompagné que je suivais, qui mettait mes réflexions sur son blog. On me disait, comme disait le frère Xavier, que j'ai eu en entretien récemment. Oh, moi, ça m'a squeezé. Hein, ça m'a... De voir que tout ce que je pouvais dire pouvait être sur un blog. Vous voyez, je me disais, mais quelle est la vie intime de ce gars-là, quoi. C'est comme ça. J'ai mis les choses au point. J'ai dit, ça suffit. Hein. sinon, je ne pouvais plus parler. J'étais facilement identifiable. Le frère Xavier, du coup, on le lit. Après, donc tout le monde entier pouvait savoir ce que je disais en accompagnement. Enfin, c'est... Bon, le secret de confession marche dans un sens, enfin, il y a quand même une discrétion de l'autre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Là. Troisièmement, réflexion en amont. Je crois que nous pouvons grandement être aidés dans ce domaine du discernement par les textes sources des pères de l'Église et en particulier par Athanase, la vie d'Antoine. Donc Athanase a des visions, des apparitions, etc. En termes plus modernes, c'est toutes les projections de désir, tout le cinéma intérieur que saint Antoine met à l'extérieur. Donc c'est son cinéma. Enfin, ce n'est qu'un écran Internet. Donc le rapport aux images, à mon avis, peut être très bien éclairé par ce que la vie d'Antoine de Saint-Athanase dit. Sur le principe de, par exemple, chapitre 45-36, le signe des bons esprits, signe opposé des mauvais esprits, quel effet les images ou les textes vous font. Ou le chapitre 43, lorsqu'une apparition se produit, interrogeons-la d'abord. Donc quand un site apparaît, interrogeons-le d'abord, pour voir d'où viens-tu, et quel est... Internet permet de donner cours sans obstacle à toutes les images possibles, et à tout son cinéma intérieur. On peut retrouver tous ces fantasmes chez d'autres groupes, etc., par des biais plus ou moins évidents. Origène, dans le... commentaire sur le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, a une réflexion intéressante. Le Cantique des Cantiques 2, verset 15, c'est « Prenez pour nous les tout petits renards qui ravagent les vignes, et nos vignes fleuriront. » Commentaire d'Origène. « Avec raison, certes, l'Époux, le Christ, ordonne de prendre et de saisir ensemble les renards quand ils sont encore tout petits. En effet, tant que la pensée mauvaise est à ses débuts, elle peut facilement être chassée du cœur. Mais si elle revient souvent et demeure longtemps, elle conduit sans nul doute l'âme au consentement. Et une fois le consentement enraciné dans le cœur de l'homme, il est sûr qu'elle tend à commettre le péché. C'est donc à ses débuts et toute petite qu'elle doit être prise et rejetée, de peur qu'une fois adulte et invétérée, elle ne puisse être chassée. Donc nous devons avoir cette vigilance du cœur qui repère les tout petits renards, c'est-à-dire, quand je vais sur tel site, qu'est-ce que je cherche, est-ce, quel est le... si elle ne... Donc d'être au clair avec soi-même. Un autre principe qui est la même idée, c'est tiré d'Ovid, mais repris par Grégoire de Nice et Origène, etc., c'est « obsta principiis », donc mettre obstacle aux premières pensées. Dès que quelque chose pointe, tout de suite la couper. Du coup, d'avoir une vigilance du cœur, la veille du cœur, très nette, pour nous attaquer à ce qui pourrait avoir de collaboration avec des choses dangereuses, on va dire. Pour conclure cette partie, Matthieu 7, 15. Donc, méfiez-vous des faux prophètes. Avec le principe, on juge l'arbre à ses fruits. Donc, c'est le principe classique du discernement. Donc, de juger un arbre à ses fruits, donc de voir ce qu'engendre telle ou telle fréquentation de sites, de personnes, etc., en nous. Mais en même temps, sur les prophéties, dans Paul, on a ne dépréciez pas la prophétie. Ce qui veut dire qu'au temps de l'Église primitive, toute parole de prophète, on en avait un peu peur, parce que ça partait dans tous les sens. Donc il y a toute une tendance à rejeter tout ce qui était parole de Dieu actualisée dans les prophéties. Et Paul dit, discernez, hein, mais ne jetez pas la prophétie comme ça. Donc moi je suis convaincu qu'il y a du bon, hein, qu'il y a de la parole de Dieu qui circule sur Internet, qu'il y a une vie spirituelle réelle. Donc je ne vais pas interdire à quelqu'un qui me contacte par Internet en disant bah, tu es sur Internet, donc forcément tu es mauvais. Donc il y a du bon, mais je vais discerner. Donc en conclusion, avant de vous laisser la parole, est-ce que je suis cyber-optimiste ou cyber-pessimiste? Donc je suis, vous l'avez compris, cyber-discernateur. Donc je suis attentif à ce que je ressens dès le début. Voilà. Et je suis attentif pour les gens que je forme, à leur donner une intériorité, ça je ne transige pas là-dessus, c'est-à-dire la cellule c'est sacré, moi je n'y rentre pas dans votre cellule. C'est le lieu où le Père Maître n'entrera jamais. Vous avez un lieu à vous et à Dieu. Quand vous aurez Internet dans cette cellule, il faut que vous ayez un moment, soit après 10 heures, soit quand vous voulez, mais que ce soit uniquement Dieu et vous. Et pour terminer, un principe de saint Thomas d'Aquin qui marche pour pratiquement tout. Donc, alors, affirmer rarement, nier jamais, discerner toujours. Donc affirmer rarement. Internet, c'est extraordinaire pour la vie spirituelle. J'affirme rarement. Nier jamais. Ne pas dire Internet, tout est mauvais. Discerner toujours. Voilà. Donc, affirmer rarement, nier jamais, et discerner toujours. Je vous remercie.